à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Calanma Radio, bonjour et bonne année, puisque c'est notre première émission mensuelle de l'année 2026. Quelle émission, me direz-vous? Mais à 23 pas du mystère, l'émission qui parle de polar et de science-fiction pour tous les aficionados. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais sachez que je n'en sais rien du tout. Moi, j'arrive, je suis un touriste, mais le maître de ces lieux a tout prévu. Il s'appelle Jérôme et il domine de sa puissance et de sa maîtrise des sujets. Jérôme, voilà. C'est à toi. Bonjour, Miss Lemon.
Bonjour, quelle responsabilité repose sur ses épaules.
Exactement, un petit peu de pression comme
ouais,
ça.
Ouais, t'as raison.
Eh bien, bienvenue à 23 pas du mystère. Bienvenue Geek Patrick, bienvenue Miss Lemon et mais tous les auditeurs.
Merci.
Alors, en ce début d'année, donc 2026, nous allons rester dans la continuité de 2025.
Oh non,
ça c'est... En vous proposant la suite, pour ceux qui ont suivi en décembre, la suite de notre exploration de la littérature francophone hors de France.
Chic.
Oui, tout à fait.
Et nous allons vous inviter à voyager, toujours sans passeport, ni questionnaire à remplir, ni serment à prêter sur un drapeau. Donc, nous allons voyager dans trois nouveaux pays, la Belgique, le Maroc et la République gabonaise. Nos guides pour cela seront d'abord Nicolas Stettenfeld, que je présenterai tout à l'heure.
Oui.
Notre chroniqueuse aguerrie, Miss Lemon, et moi-même.
Très bien.
Et tandis que Geek Patrick assurera à lui seul la partie chronique en fin d'émission en revenant sur l'œuvre d'un auteur russo-américain.
Plus américain que russe.
Et donc en complet décalage avec la thématique de notre
totalement
émission du jour. Mais c'est assumé.
De la problématique.
Voilà. Allez, c'est parti pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Alors, nous démarrons notre périple en franchissant la frontière pour aller donc en Belgique et précisément dans la région wallonne.
Qu'est-ce que c'est encore ce truc que tu nous fais écouter?
Alors, c'était pour nous mettre dans l'ambiance de la Belgique, bien sûr. Un morceau interprété par le groupe Turdus Philomelos,
d'accord,
qui est le nom latin de la grive musicienne.
Mais je savais.
C'est pas beau tout ça.
Je le savais, dit le menteur.
Alors, nous sommes donc en Belgique, où le français est l'une des trois langues officielles.
Trois
langues. Donc, le français, pour Miss Lemon, le français. Ensuite, l'allemand. Et le néerlandais.
Eh oui.
L'allemand est langue officielle en Belgique?
Tout à fait.
J'en reviens pas.
Alors, le français en Belgique, il est principalement employé dans la région wallonne et à Bruxelles. Mm-hmm. Sachant qu'à Bruxelles, on y parle une variété de français un peu spécifique par rapport au reste de la Belgique. Et donc, on a à peu près 44% de la population belge qui parle couramment le français. Donc, sur un total de 12 millions. Et potentiellement, parce qu'on revient sur les estimations basses et hautes de francophones qu'on avait déjà rencontrées dans notre première émission, entre 44 et 71% de la population en Belgique parlerait le français.
Ah oui, d'accord. Eh bien, pour confirmer tout cela, notre guide pour la Belgique sera Nicolas Stettenfeld, attaché scientifique à la Bibliothèque des littératures d'aventure, BILA, de Chauxfontaine, qui nous retrace en raccourci l'histoire de la science-fiction en Belgique francophone. Accrochez-vous.
Alors, en Belgique, on a souvent l'habitude de dire que c'est une terre de littérature de genre, une terre pour le fantastique et pour le policier en tout cas, et je pense que tout le monde connaît, et même les auditeurs de ton émission, Jérôme, probablement l'école belge du fantastique, avec comme figure, comme une centrale, Jean Rey, ou la tradition du roman policier belge, qui explose pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et avec des grandes figures comme Stéman ou Simenon. On connaît sûrement nettement moins, par contre, la tradition de la science-fiction en Belgique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'école, dans le discours médiatique, il n'y a pas vraiment d'école de la science-fiction belge. Et si bien qu'on pourrait même avoir l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'auteur de science-fiction en Belgique, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et moi, ce que je proposais, du coup, dans cette petite chronique, c'est de rapidement rebrasser cette histoire de la science-fiction, parce que, vous allez voir, elle est fort intéressante, puisque il y a des grandes figures belges, ou d'origine belge, hein, souvent ils émigrent en France pour leur carrière, hein. Grandes figures belges, on va dire, aux deux limites temporelles de la science-fiction, c'est-à-dire au tout début et aujourd'hui à la toute fin. Le premier d'entre eux, ce n'est rien de moins que l'inventeur même de la science-fiction, puisque je vais parler ici de Rosny Henné, que tout le monde connaît, notamment pour ses romans préhistoriques et pour La Guerre du Feu, son œuvre la plus connue et la plus éditée et rééditée. Mais Rosny Henné, il est belge, hein, il est d'origine bruxelloise, et il émigre quand il est majeur à Paris, il fait toute sa carrière en France, mais il est d'origine belge. Et on considère aujourd'hui que Rosny Henné est le fondateur de ce que Maurice Renard va appeler le merveilleux scientifique, c'est-à-dire l'ancêtre, pour faire rapidement, de la science-fiction. Et il va être le fondateur de ce merveilleux scientifique à travers un titre, hein, une nouvelle, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui une novella, un roman court, qui s'appelle L'Exipéus, et qu'il publie en 1887, sous le pseudonyme commun qu'il a avec son frère à ce moment-là, qui est J.H. Rosny. Mais on sait après, parce qu'ils en ont parlé après, que en fait c'était juste Rosny Henné qui était derrière ce texte. Et ce texte, il est vraiment passionnant. Donc Rosny, c'est un peu le père de la science-fiction et du roman préhistorique. Comme on dit, c'est pas tout à fait vrai pour le roman préhistorique, parce qu'il y a des précédents lui, mais c'est vrai que c'est lui qui va populariser, on va dire, le genre très tôt à la fin du 19e siècle. Et L'Exipéus, c'est marrant, c'est amusant, parce que c'est un texte qui est à la frontière des deux genres, du roman préhistorique et de la science-fiction, puisqu'il met en scène un peuple nomade du néolithique qui va être confronté à une étrange entité organique, vivante et intelligente, qu'il appelle l'Exipéus, qui sont des sortes de cristaux pensants, et il va mettre en scène, en fait, une guerre des règnes, c'est-à-dire une guerre entre deux espèces dominantes et intelligentes pour le règne, pour la suprématie sur la planète Terre. Et donc les premiers humains et Exipéus, et on va suivre notamment un jeune homme, membre de cette tribu, qui s'appelle Bakun, et qui va mettre en place, pour étudier ces entités étonnantes, la première méthode scientifique, et en même temps presque une méthode de détective, hein, c'est-à-dire analyser l'Exipéus, voir comment il fonctionne, et puis trouver une solution pour les anéantir. Donc c'est un texte très étonnant, bon, qui est bien très tôt, hein, dans l'histoire de la littérature, et très étonnant parce que effectivement il met en scène cette vie complètement différente de ce qu'on pouvait avoir avant, donc qui ne relève pas d'une monstruosité fantastique comme on pouvait trouver avant, mais qui est complètement nouvelle. Et c'est un texte qui est aussi traversé alors par la passion que Rosny Henné avait pour les sciences émergentes à son époque, notamment les sciences préhistoriques, les sciences géologiques, et puis les théories de l'évolution, hein, de Lamarck et de Darwin, auxquelles lui croyait énormément très tôt. Et ce qu'il met en scène, en fait, dans ce texte, c'est finalement une sorte de saut évolutif de l'humanité qui devient, à la fin de ce texte-là, une sorte d'espèce dominante sur la planète. Donc c'est aussi un récit des origines, mais à travers le prisme de la science. Et donc, voilà, ce texte-là, qui est très beau, en plus formellement, très intéressant, est considéré aujourd'hui comme le premier texte de la science-fiction, de l'âge d'or de la science-fiction française. Il va évidemment pas s'arrêter là, il va écrire beaucoup d'autres textes dans le même style. On va pas tous les retracer parce que la séquence ne va pas durer des heures, mais on va en citer quand même quelques-uns peut-être qui sont les plus importants, c'est-à-dire La mort de la Terre, hein, un texte qui anticipe les questions d'écologie, hein, puisqu'il va mettre en scène la fin de l'humanité sur une Terre qui est en voie de désertification suite à l'influence de l'homme. Donc c'est un texte qui porte assez mal son nom, parce que c'est pas réellement la mort de la Terre, c'est plutôt la mort de l'humanité, et toujours avec ces questions de transmission, de règne, ces questions de transmission entre les espèces, il met en scène la fin de l'espèce humaine, mais pas la fin de la Terre, puisque derrière les derniers humains, il y a une nouvelle espèce qui apparaît, et qui est en voie de dominer alors la Terre. Donc c'est un texte qui montre une transition, la fin de l'humanité, mais le début d'un nouveau règne, d'une nouvelle espèce qu'il imagine. Citons aussi peut-être Les Navigateurs de l'Infini, qui est une sorte d'ancêtre du space opéra, qui met en scène des voyages sur la planète Mars, ou des astronautes. Rosnéiné est le fondateur du mot, c'est le créateur du mot astronautique d'ailleurs, des astronautes qui vont à la rencontre d'espèces intelligentes aussi, et qui vont les aider à cohabiter avec d'autres espèces intelligentes, puisque sur Mars, il imagine qu'il y a plusieurs espèces intelligentes qui essayent et dominantes qui essayent de cohabiter. Il demande d'ailleurs une fin à ce texte, qui s'appelle Les Astronautes, qui est publié, tes auditeurs connaissent sûrement très bien, la fameuse collection du Rayon Fantastique, hein, et donc qui est publié après sa mort pour la première fois dans cette collection dans les années 50 du Rayon Fantastique. Sont des textes qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui sont réédités dans une collection patrimoniale belge qui s'appelle Espace Nord, qui est disponible en France très facilement à la commande chez n'importe quel libraire. Et dans cette collection-là, on a réédité justement La mort de la Terre, l'Exipéu, Les Navigateurs de l'Infini et Les Astronautes, avec ces deux volumes qui sont sortis en début d'année. On fait le tour un peu des grands textes de cet auteur majeur, du coup, des tout débuts de la science-fiction francophone. Évidemment, Rosnéiné, il va avoir une influence très forte sur beaucoup d'auteurs, et beaucoup d'auteurs belges aussi, avec des continuateurs comme Marc Bailly ou Henri-Jacques Proumen, qui vont écrire des romans, comme ça, de merveilleux scientifiques, un peu à la manière de Rosny, mais sur lesquels je ne vais pas vraiment m'arrêter, parce qu'on n'a pas trois heures. Et donc, le merveilleux scientifique, on sait bien qu'il va un peu disparaître dans les années 30, un peu naturellement, il va s'essouffler. Et si on doit retrouver un autre moment important, on va dire, dans l'histoire de la littérature francophone belge, un autre moment important pour l'histoire de la science-fiction, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est la parenthèse du policier, hein, comme beaucoup de gens le savent. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs d'origine belge vont de nouveau faire parler d'eux, et de deux manières, parce qu'il y a un peu, dans les années 50, c'est la grande explosion de la science-fiction, sous l'influence notamment de la littérature anglo-saxonne, qui arrive en France et en francophonie, et donc le genre est vraiment découvert à ce moment-là, et il y a deux courants. Il y a le courant très populaire, représenté par Les Presses de la Cité, et surtout par Le Fleuve Noir, la collection Anticipation, des choses comme ça, qui vont faire du space opéra à l'anglo-saxonne, quoi. Et puis il y a un courant un peu plus... un peu plus élitiste, peut-être une approche un peu différente, qui va être menée en grande partie, qui va être dirigée par un autre Belge qui s'appelle Jacques Sternberg, qu'on connaît fort bien pour son livre publié aux éditions de Minuit dans les années 50, qui s'appelle L'Employé, hein, mais qui est, lui, vraiment un grand auteur de science-fiction. Il va se spécialiser notamment, surtout dans la nouvelle, voire dans la micro-nouvelle, hein, il en va publier plusieurs milliers, plusieurs centaines, en tout cas environ 1500, et elle relève essentiellement de la science-fiction. Jacques Sternberg, il va être aussi celui qui va écrire un des tout premiers essais consacrés à la science-fiction en français, qui s'appelait Une succursale du fantastique appelée la science-fiction, qui est publié grâce à Joël Losfeld, autre belge expatrié à Paris. Et donc Jacques Sternberg, lui, toute sa carrière, il va écrire certains roman de pure science-fiction, notamment au Rayon Fantastique, chez De Noël. Et puis, il va écrire surtout et essentiellement de micro-fiction. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus élitiste, on va dire, de la science-fiction. Mais il y a aussi toute cette production populaire, et on ne le sait pas toujours, mais notamment dans la collection Anticipation au Fleuve Noir, qui avait la particularité de ne publier que des auteurs francophones, hein, qui ne faisaient pas de la traduction. Dans cette collection-là, il y a un peu cachée, on ne le sait pas toujours, mais une contribution massive d'auteurs belges qui, après la guerre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les bonnes étant simplement que le marché du livre, quand on veut vivre de sa plume, il vaut mieux travailler avec la France qu'avec la Belgique, où le marché est beaucoup plus réduit, ou pour de mauvaises raisons, hein, des gens qui avaient un peu collaboré, on va dire, pendant la Grande Guerre mondiale, et qui préféraient aller se faire oublier, on va dire, en France, vont investir donc cette production populaire, notamment au Fleuve Noir, et écrire sous pseudonyme énormément de romans pour la collection Anticipation. Il y a trois principaux noms, mais qui cachent en fait cinq personnes. Jean-Gaston Vandel, hein, qui écrit tout de suite dans les débuts de la collection Anticipation, qui est en fait le pseudonyme commun de Jean Libert et de Gaston Van den Panhuys, deux Belges. Il y a Peter Ronda et Christopher Stork. Christopher Stork qui cache en fait Stéphane Jouraïev et José-André Lacour. Donc tous des auteurs belges qui écrivent énormément de romans pour ces collections-là, puisqu'ils publient ensemble environ 200 titres. Hein, 200 titres, donc sur les 2000 de la collection, c'est quand même un dixième. Donc c'est des auteurs très prolifiques et qui produisent énormément, et donc qui apportent une contribution importante à cette science-fiction populaire française des années 50 à 80 environ. Au même moment aussi, un autre Belge, mais alors dans une production plus destinée à la jeunesse, mais qui aujourd'hui est célébré aussi, surtout par des lecteurs adultes, c'est évidemment Henri Verne, hein, qui va prendre en charge la collection Bob Moran, la série Bob Moran, aux éditions Marabout, hein, ces éditions Verviers et Toi, donc ici du côté de Liège, et qui va lancer cette collection Bob Moran. Et dans cette collection Bob Moran, qui commence d'abord comme du roman d'aventure, mais Henri Verne va très vite se rendre compte que le roman d'aventure, surtout comme il l'envisage, c'est-à-dire à la manière du roman d'aventure au 19e siècle, c'est roman d'aventure géographique, donc exploration de jungles oubliées, d'îles inexplorées, tout ça, était un peu anachronique dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et il va très vite s'orienter vers des genres plus populaires à l'époque, et parmi les genres les plus populaires, il y a évidemment la science-fiction. Parmi les dizaines et les dizaines de titres de Bob Moran, ben un bon tiers relève en fait de la science-fiction. Donc c'est certainement un des contributeurs les plus importants de la science-fiction belge francophone, avec ces fameux Bob Moran qu'il écrit à partir des années 60. Hein. Donc voilà. Pour faire la transition, peut-être pour avancer dans le temps, pour faire la transition avec un auteur plus contemporain, on pourrait peut-être parler d'Alain Le Bussy, que vous connaissez aussi peut-être, parce qu'il est un peu un des derniers auteurs prolifiques, comme on pouvait trouver au Fleuve Noir juste après la guerre. Il va publier d'ailleurs dans la toute fin de la collection Anticipation au Fleuve Noir, et c'est un auteur ici du coin, aussi un auteur liégeois, qui est aussi très actif, et c'est là que je fais le lien, dans le milieu du fandom et du fanzine. Parce que l'auteur contemporain que je voudrais vous présenter, il s'appelle Dominique Warfa. Dominique Warfa, c'est un auteur de la région aussi de Liège, ici. Un auteur qui commence dans les années 70, la fin des années 70, mais qui publie toujours aujourd'hui, et qui va commencer sa carrière, justement, dans le milieu du fanzine. Hein. Donc, il y a eu une belle activité de fanzine, de science-fiction, ici en Belgique francophone, entre les années 60 et les années 90, les années 90, beaucoup de fanzines, notamment le premier d'entre eux, c'est peut-être ceux de Claude Dumont, qui est un Français, là, on va dans l'autre sens, qui est un Français qui a émigré en Belgique et qui a créé le fanzine qui s'appelle L'Humaine dès 1963. Et puis plein d'autres se sont créés derrière, hein, comme Atlanta de Michael Grein, Mizard de Michel Ferron, et le fanzine QNC du prolifique donc Alain Le Bussy, que je vous citais tout à l'heure, ou encore hein, les essais de Bernard Gordon, le fanzine Phoenix de Marc Bailly, enfin voilà, il y en a eu plein. Et Dominique Warfa, il va commencer là-dedans aussi en lançant son propre fanzine, qui s'appelle Bituline, un fanzine qui commence tout début des années 70, et qui est vraiment pensé dans l'esprit des années 68, donc quelque chose d'assez libertaire, d'assez horizontal, qui non seulement accueille de la fiction, de science-fiction, mais aussi des essais et des choses comme ça. Et c'est de là-dedans qu'il va publier ses premières fictions. Dominique Warfa, il est fort influencé par ce qu'on appelait la New Wave à ce moment-là, et par des auteurs comme Michel Jury. Donc il commence avec des textes un peu expérimentaux, avec une narration assez explosée. Voilà, et il va être très vite, grâce à son travail, notamment dans le milieu du fanzina et dans le milieu du fandom de SF, à se faire connaître en France, puisqu'il publie en 1979 dans la revue Fiction une première nouvelle qui s'appelle « Aux couleurs d'un rivage blond ». Et puis après, il va être repéré alors par Philippe Curval et il va être accueilli dans une anthologie assez célèbre de la collection chez De Noël, hein, la collection Présent du Futur de chez De Noël, qui s'appelle Futur au Présent. Donc, une anthologie qui rassemblait les futures voix, on va dire, de la science-fiction sous la houlette de Philippe Curval. Et donc, il va rentrer aussi dans. Il va être dans ce volume-là avec un texte qui s'appelle Rituel pour un illustré. Et alors là, sa carrière est assez lancée. Non, c'est un auteur qui ne fait que de la nouvelle. Hein, c'est qu'un nouvelliste de Mouffarfin. Et donc, pendant bien longtemps, il était assez difficile finalement de lire ses textes parce que ils ont été publiés à gauche, à droite pendant une cinquantaine d'années, dans des fanzines, dans des revues, dans des anthologies. Comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours une vue assez d'ensemble de son travail. Il y avait eu un grand projet de publication en 4 volumes de ses œuvres, pour ainsi dire, intégrales, dans une petite maison d'édition qui s'appelle Longfoot Publishing, mais qui est tombée en désuétude, enfin, qui est tombée en faillite très tôt. Les livres n'ont même pas réellement été diffusés. Ce travail anthologique-là avait été récupéré en numérique par les Moutons Électriques, qui ont malheureusement disparu, et donc c'est plus disponible. Par contre, de nouveau, dans cette collection Espace Nord, collection patrimoniale belge francophone, il y a un volume qui a été fait, qui est sorti l'année passée, en 2024, qui s'appelle Lagune Morte et autres nouvelles. Ici, donc, c'est une anthologie sélective à son œuvre, il y a loin d'avoir tous ses textes, il en a publié une bonne cinquantaine, mais qui donne une bonne vue de son travail de nouvelliste, puisque ça part de ses premières nouvelles en 1970 jusqu'à aujourd'hui, puisque lui continue à publier. Il a publié notamment dans Bifrost, et récemment il avait participé à ce projet mené par les éditions BL de terminer Les Galaxias de Michel Demuth. Plusieurs auteurs avaient pris en charge certaines nouvelles que Michel Demuth n'avait pas pu écrire. Dominique Orphan en faisait partie, et ces textes-là sont aussi présents dans cette anthologie, suivi d'un entretien avec l'auteur qui connaît très bien la science-fiction, parce qu'en plus d'être un nouvelliste, il est aussi essayiste, et il a beaucoup travaillé sur la science-fiction et sur la science-fiction belge, notamment, c'est un des grands exégètes de la science-fiction belge francophone. Un recueil d'ailleurs de ses études est sorti aux presses universitaires de Liège, mais surtout, pour ceux qui connaissent, il avait participé activement au hors-série de 2011 de la revue Galaxy, qui était consacrée justement à la filière belge. Donc voilà, donc cet auteur-là, il est toujours bien vivant, toujours bien actif, il a encore publié un texte il y a très peu de temps ici en Belgique, et il constitue un peu aussi une forme de mémoire de la science-fiction, parce qu'il connaît très bien tout ça, et donc c'est un auteur très intéressant que moi je conseille aux auditeurs de découvrir via ce volume. Et peut-être pour terminer, pour montrer aussi qu'il y a quand même bien, bien d'autres choses qui se font en Belgique, 3 conseils lecture de choses qui sont sorties très très récemment. L'occupation du ciel de Gilles Bartholens, qui est sorti donc l'année passée en 2024 chez Rivage, dans la nouvelle collection Imaginaire de Rivage, qui est un texte très, très passionnant, texte qui met dans un futur assez proche, qui mélange en même temps exploration spatiale, mission sur Mars et des règlements climatiques, comme ça, qui pose une réflexion très très juste, très pertinente sur notre futur assez proche. Autre texte, Amor Mina B de Frédéric Roussel, qui est sorti chez Elis Hellas, une maison d'édition suisse. Et là, qui est un texte tout à fait étonnant, parce qu'il est écrit un peu en vers libre, comme ça. Il est illustré par l'auteur aussi. Et c'est en même temps, c'est un texte qui suit un personnage sur une planète éloignée, complètement isolée sur cette planète-là. Et on est dans les pensées de cet astronaute-là, perdu au fin fond de l'espace. Donc c'est un très beau roman, très poétique. Est très intéressant, qui est sorti il y a quelques mois. Et enfin, alors, citer aussi Restart de Katia Lanero-Samora, qui est une novella, elle, dans la collection, dans une des nouvelles collections de novellas des éditions Argile, qui ne publie que des autrices de science-fiction. Et donc, Katia Lanero-Samora, qui est une jeune autrice liégeoise, a publié ce Restart, qui est une sorte de dystopie en même temps, entre la dystopie et le body horror. Voilà, et qui interroge un peu le rapport au corps, ce qu'ont les femmes aujourd'hui entre injonctions contradictoires et société capitaliste. Voilà, donc c'est un texte court, très lisible, mais en même temps très percutant par sa thématique. Donc voilà, pour cette petite exploration rapide de l'histoire de la science-fiction belge.
À 23 pas, du mystère.
Calade. Nous allons quitter la vieille Europe et nous vous invitons donc à embarquer à bord de notre voilier et à mettre le cap vers le sud.
J'ai rien contre la musique wallonne, mais je préfère de loin cette musique-là, marocaine. Vas-y, explique-nous.
Alors, c'était un extrait interprété par un joueur de oud marocain qui s'appelle Driss El Maloumi.
D'accord.
Donc,
très
tout
chouette.
Cela pour nous mettre dans l'ambiance du Maroc où nous, nous sommes arrivés. Et au Maroc, il y a deux langues officielles qui sont apparentées, qui appartiennent toutes deux à la famille des langues dites afro-asiatiques. Ce sont d'une part l'arabe, qu'on connaît bien, et d'autre part, le tamazir, ou amazir, qui est une langue de la famille berbère, des langues berbères.
D'accord, c'est une langue berbère.
Donc, parlée par les Touaregs, le peuple nomade, qui est une langue apparentée donc à l'arabe, mais il y a donc avec des différences par rapport à l'arabe qui font qu'il y a ces deux langues officielles au Maroc.
D'accord.
Le français, quant à lui, bien, il s'est implanté toujours par le colonialisme pendant la période du protectorat à partir de 1912 et jusqu'à l'indépendance en 1955. Mais il est resté employé dans l'administration, l'enseignement, les médias et le milieu des affaires.
D'accord.
Ce qui fait qu'on estime à l'heure actuelle la population parlant français entre un tiers et jusqu'à 45% de la population totale au Maroc. Voilà, donc ce qui fait pour une langue qui n'est pas officielle,
c'est
une langue qui a un statut assez, assez important.
Oui, voilà. En plus, c'est une langue qui finalement n'est pas très ancienne enfin, dans l'implantation.
Oui, c'est ça, oui, puisqu'elle
par rapport au protectorat,
début 20e.
Donc c'est étonnant d'avoir autant de locuteurs.
Autres situations qui étaient plutôt 18e.
Ça fait beaucoup de locuteurs par rapport à une courte période d'existence. Ok. Donc Jérôme a choisi de nous parler d'un personnage iconoclaste, l'inspecteur Ali.
Alors, l'auteur marocain Driss Chraïbi, c'est pas vraiment un auteur qu'on s'attendait à rencontrer dans notre émission, parce que c'est un auteur respecté dans le champ de la littérature générale.
D'accord.
Depuis son premier roman, qui s'appelle Le passé simple, qui est paru en 1954, il a développé une œuvre qui s'intéresse plutôt à la société marocaine et au monde musulman. Il a notamment publié en 1994 L'homme du livre, qui retrace la vie du prophète Mahomet avant la révélation, avant qu'il ne devienne le prophète. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait légitime, qui a été même nommé chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 1986 en France, où il résidait. Et donc la question que vous allez me poser, bien sûr, c'est comment Driss Chraïbi se retrouve-t-il à 23 pas du mystère?
Mais alors qu'est-ce qu'il fait à 23 pas du mystère?
Que vient-il faire dans notre galère?
Driss, alors, qu'est-ce que tu viens faire là?
Eh bien, ça s'explique parce qu'en 1981, il lui a pris l'idée de créer le personnage de l'inspecteur Ali, qu'on va retrouver dans 5 romans, le dernier étant paru en 2004, sachant que l'auteur, lui, est décédé en 2007, donc il n'y en aura pas d'autres. Hein, ça,
d'accord.
Ça reste une série en 5 romans. Et donc cet inspecteur Ali, c'est un personnage un peu à part, tout à fait iconoclaste, irrespectueux, provocateur, qui critique ouvertement la société marocaine et le pouvoir, les mécanismes du pouvoir dans son pays. Un de ses interlocuteurs le qualifie de persifleur mal poli.
Oui.
Il enquête sans respecter les procédures.
Est-ce que ça se passe dans le Maroc contemporain?
Oui, tout à fait. Oui, il ne respecte pas les procédures, il est grossier ou impertinent avec les gens qu'il rencontre, il abuse volontiers de son pouvoir de policier, ça ne lui pose aucun problème. Et pour couronner le tout, il est perpétuellement en état d'excitation sexuelle. Voilà. Donc il peut faire penser un peu à un espèce de syncrétisme entre le commissaire San Antonio et son adjoint Berrurier.
J'espère qu'il est physiquement plus près de San Antonio que de Berrurier, sinon il n'a pas de chance.
Alors, il est vêtu, si on regarde un peu son aspect physique, il est vêtu souvent de manière excentrique. Par exemple, dans le roman Une place au soleil, lorsqu'il apparaît, il est décrit de la manière suivante.
Un grand escogriffe, âgé à vue d'œil d'une trentaine d'années, hagard, maigre et famélique comme un matou oublié dans un grenier. Il était vêtu d'une salopette trouée aux genoux, effilochée au bas des jambes. Mais il arborait une cravate de soie aux armes du Royal Golf Club et ses souliers étaient tout neufs. Si neufs et si vernis qu'il réfléchissait à chaque pas les rayons du soleil couchant. Un peu plus tard, il se change et il porte alors un frac avec un pantalon rayé, une chemise à col cassé et toujours ses souliers vernis.
Alors, pour continuer le portrait, en lisant, on se rend compte qu'il est amateur de bonne nourriture et c'est un gros mangeur. Donc, c'est un personnage qui est tout à fait fait pour les amateurs de polar et gastronomie, qui est un thème à part. Dans l'inspecteur Ali et la CIA, Ali va donner carrément au lecteur une recette de sardines. Qu'il a cuisiné.
C'est pas pour moi, je suis pas très sardine.
Prenez des sardines fraîches, videz-les, nettoyez-les, mettez-les dans le haut d'un couscoussier pour qu'elles cuisent à la vapeur. Pendant ce temps, pilez dans un mortier en cuivre de l'ail rose, quelques grains de poivre gris, de la coriandre, du persil et deux ou trois cheveux de safran. Pas le safran en poudre, c'est nul. Mélangez cette pâte avec la chair des sardines, pétrissez, formez des boulettes de la grosseur d'un œuf de pigeon. Roulez-les dans la farine de blé dur. Il ne vous restera qu'à les mettre au four à température moyenne. C'est succulent, croustillant et juteux à la fois. C'est vrai que ça donne envie quand même.
Voilà, donc un exemple pour montrer que la nourriture a une grande importance dans ces romans, tout au long des romans. Il y a un autre aspect assez particulier de cet inspecteur, c'est que c'est un amateur de poésie et de littérature. C'est finalement un fin lettré.
Il est très paradoxal. Hein.
Oui.
Tout à fait. Et donc les textes contiennent de nombreuses citations d'auteurs assez variés. J'en cite quelques-uns. Rudyard Kipling, Shakespeare, Flaubert. Et il a une prédilection pour des poètes. Alors il va citer Mallarmé, José María de Heredia, Verlaine et un poète égyptien qu'il affectionne qui s'appelle Ahmed Shaouki.
Eh bien, il connaît ses classiques. Hein.
Donc, c'est un policier, comme on peut le lire, un policier versé dans les belles lettres.
Voilà.
Donc, un personnage assez particulier. Alors, les enquêtes qu'il mène se déroulent d'abord au Maroc, et puis ensuite, il va se promener un peu partout dans le monde, en Irlande, en Écosse, aux États-Unis, au Canada, etc. À côté des 5 romans du cycle, proprement dit, l'inspecteur Ali va être évoqué dans un livre qui est un peu particulier, paru 10 ans après la première apparition du personnage, donc si je fais bien mes calculs, ça sera en 1991, dans un roman qui porte son nom, l'inspecteur Ali, mais dans lequel il n'apparaît pas, enfin, il n'enquête pas, en fait, c'est pas un roman policier. C'est un roman qui met en scène un romancier qui est une sorte de double de Driss Schraibi, un romancier marocain qui s'appelle Brahim O'Rourke, auteur d'une série à succès dont le protagoniste est l'inspecteur Ali et dont il aurait écrit une trentaine de volumes. Donc d'accord. On se retrouve dans une espèce de fiction où Driss Schraibi a écrit un seul roman de la série de l'inspecteur Ali en 1991, mais où il imagine que c'est une série qui a pris de l'ampleur et d'accord. qui est devenue donc une série très longue, donc 30 volumes, et surtout, ce sont des best-sellers internationaux. C'est-à-dire qu'il en vend non seulement partout dans le monde francophone, mais ils sont traduits dans différentes langues, et ils sont adaptés aussi à la télévision, notamment. Dès qu'ils sortent, eh bien, les éditeurs se jettent dessus pour le diffuser.
Ce qui lui permet de transformer son personnage et d'en faire un personnage connu, alors qu'au départ, dans le premier tome, c'était un flic parmi d'autres. Alors.
Tout à fait, oui. Là, ça serait une grande vedette. Donc lui serait devenu une sorte d'Agatha Christie marocain.
Et c'est juste statut, pour ce deuxième roman ou ça va perdurer ensuite?
Non, c'est uniquement dans ce roman-là qui est particulier, où le
un
personnage principal est une sorte de version fantasmée de lui-même, qui serait devenu un auteur à succès grâce à ce personnage-là qui n'avait pas exploité davantage à cette époque.
À l'époque, oui.
Alors, ce romancier, alors il y a une réflexion à partir de ce statut-là, c'est-à-dire que le romancier qui est mis en scène, qui gagne très bien sa vie grâce à sa série, eh bien, il n'est pas très satisfait de son œuvre. et il travaille à un autre roman qu'il juge plus ambitieux, qui s'appelle Le Second Passé Simple, donc qui est la suite directement du premier roman de Driss Schraibi.
D'accord.
On est là-dedans. Et O'Rourke, donc ce romancier, double de Schraibi, il considère la littérature policière comme une littérature alimentaire, quelque chose de méprisable, mm-hmm. un peu à la manière de d'autres romanciers avant lui. Alors on peut mm-hmm. citer par exemple le romancier S.S. Van Dyne, aux États-Unis dans les années 20, qui était un critique d'art et critique littéraire, mm-hmm. qui méprisait totalement la littérature policière de son époque. Il la considérait uniquement bonne pour les gens qui n'étaient pas très intelligents et qui manquaient d'éducation, mais qui, par nécessité financière, en 1926, se retrouve à écrire des romans policiers.
Il a été contraint d'écrire des romans policiers.
Et qui crée
bien fait pour lui.
Il crée un détective amateur qui s'appelle Philo Vance, qui va devenir, lui, un des best-sellers des années 1920-1930, avec une douzaine de romans qui sont parus jusqu'en 1939, qui ont été traduits dans différentes langues et adaptés au cinéma.
D'accord.
Voilà, donc c'est quelque chose qui est fantasmé par Schraibi, mais qui existe dans,
ouais, bien sûr.
Dans d'autres cas. Et il fait également, grâce à ce personnage, eh bien, un portrait du romancier comme un auteur prisonnier de son personnage et dominé par celui-ci. Comme l'ont été, par exemple, Conan Doyle,
ouais, bien sûr.
Avec Sherlock Holmes. Conan Doyle qui se rêvait en auteur de romans historiques.
Sérieux.
Qu'il a écrit, mais qui n'ont pas eu autant de succès que son Sherlock. Mm. Ou bien Agatha Christie, prisonnière d'Hercule Poirot.
Ouais, ouais.
Agatha Christie qui regrettait d'avoir créé un personnage aussi ridicule. Si elle avait su qu'il allait le durer aussi longtemps, alors elle ne l'aurait pas fait exactement de cette manière-là. Donc, Miss Lemon, pardon, va vous lire un extrait de cette insatisfaction du romancier face à son personnage.
« Cet innommable ouistiti prenait trop de place, avait fini par infléchir ma nature. Il allumait cigarette sur cigarette et je l'avais imité. Il avait une bronchite chronique, moi aussi. C'était lui qui pensait, non plus moi, l'auteur. Je traçais le plan d'une intrigue et il prenait aussitôt la tangente, un chemin de traverse en direction d'un tout autre récit. Pas une fois, je n'avais cessé de lutter contre lui. À quoi bon ? Il me guidait. »
Mais bon, tout cela n'a pas empêché Driss Schraibi de se lancer ensuite dans la série des enquêtes de l'inspecteur Ali, qui, cependant, a eu moins de succès que ce qu'il n'avait imaginé dans le roman intitulé L'inspecteur Ali.
Pas de chance pour lui.
Alors, il est temps de quitter le Maroc, et nous allons descendre un peu plus loin encore en Afrique, aborder dans un autre pays.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.
Quand on sort une œuvre que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite, comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en frais de nez le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini en forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un à l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toutes les personnes. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Rémi Fassol? Je sais par expérience quand c'est bon, ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier, c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche, franchement, on en a assez. Excès de succès à ce
moment. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.
C'est trop bien. Vive l'Afrique, côté musique. On est au Gabon, là, alors.
Tout à fait.
Et oui, notre chronique arrive à Libreville par l'intermédiaire de l'auteur gabonais francophone Janice Otsiemi.
Alors, au Gabon, ou République gabonaise, qui est la forme officielle, eh bien, on parle principalement des langues du groupe bantou, comme le Lingala, le Kikongo, le Fan, etc. Il y en a une cinquantaine en tout dans ce pays. Mais le français est quand même langue officielle. Puisqu'il y a eu des colonisateurs français qui se sont installés dans le pays à partir des années 1840. Mmh. Et à l'indépendance, donc en 1960, eh bien, il y avait encore entre 2/3 et 80% de la population qui parle le français. Donc c'est une langue de colonisateurs, mais qui s'est très bien maintenue dans le pays, qui est utilisée notamment dans l'enseignement et dans l'administration. Ce qui fait que Patrick pourra aller tranquillement lors de ses prochaines vacances au Gabon, sans aucun problème de compréhension.
Éventuellement.
Alors, la musique, c'était le groupe Eyeo, mais je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Laissez-nous avancer. Donc, ce groupe est cité dans le récit, en fait, que je vais vous présenter, de l'auteur Janice Otiemi. Alors, ce groupe a été très, très populaire au moment, en même temps que le livre, en fait, en 2009. Et il a été renié depuis par les jeunes parce qu'il a fait un choix politique, a priori, très critiquable aux yeux de la jeunesse du pays. Voilà, je me suis renseignée un petit peu. Et donc, cette chanson, en effet, fait partie du roman de Janice Otiemi. Le roman que je vous présentais, c'est « Chasseurs de Lucioles ». En fait, elle donne du cœur à l'ouvrage à des braqueurs qui abordent une BMW, mettent cette musique-là un peu à fond. La BM étant volée, avec des armes volées, pour s'emparer d'un fourgon de convoyeurs de fonds d'une agence de la Poste. Donc ça, c'est une des histoires du roman. Donc, « Le chasseur de Lucioles » est un titre qui illustre, à mon avis, pleinement le roman. C'est-à-dire que tous les personnages sont à la recherche de Lucioles à leur manière. Donc, la Luciole, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, c'est un coléoptère qui produit de la lumière. Et pourquoi donc, Guy Patrick ?
Parce qu'elle le veut bien.
Pour attirer son partenaire, ah bon. Il y a toujours une raison. Donc, dans le roman...
On ramène tout au sexe, c'est pas possible.
Non, mais
nous vivons dans une planète d'obsédés.
Dans le roman, voilà, les Lucioles, le terme déjà par rapport chasseur de Lucioles, c'est déjà un terme qui est plutôt flatteur de mon point de vue pour qualifier les prostituées. Donc je trouve ça plutôt...
Chasseur de Lucioles,
ouais, plutôt poétique, les Lucioles.
Ah non, voilà. Les Lucioles, c'est les prostituées,
ouais,
d'accord.
Voilà, les Lucioles sont ces femmes qui travaillent dans le domaine que l'auteur cite de la cuisse tarifée à Libreville.
D'accord.
Mais qui revêt quand même un caractère assez dramatique dans le roman, puisqu'il y a une série d'assassinats violents sur des prostituées. Donc, on cherche ce chasseur de Lucioles, donc
d'accord,
le tueur de femmes.
Ce que tu appelles le chasseur de Lucioles, c'est l'assassin.
C'est l'assassin, en fait.
D'accord.
Qui a une quête, alors ça, je ne vous dirai pas pourquoi, il faut la chercher dans le roman, bien sûr, mais il cherche une Luciole qu'il n'arrive pas à trouver, et donc ce sont de pauvres victimes qui payent ce lourd tribut.
Le prix de sa frustration.
Exactement. J'ai aussi interprété, moi, dans le roman, le terme de Luciole comme le symbole de la richesse, puisqu'on court après, on ne l'obtient pas forcément, et puis ça brille, ça attire dans le roman, parce que chacun cherche des richesses pour survivre, pour monter dans la hiérarchie, ou encore dans l'estime de sa famille et de son entourage. Et l'estime est vraiment quelque chose qui est très importante. Il y a une pression incroyable dans le roman et je pense dans la culture en fait, hein, du pays. Mmh. Et puis Luciole aussi parce que les sujets... Y a un journaliste qui cherche des sujets et qui cherche à survivre avec une rédaction de contenu dans son journal qui puisse attirer le lecteur sans être interdit par l'appareil d'État. Donc c'est aussi un peu une Luciole. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... comment vais-je pouvoir mettre en avant quelque chose sans me faire condamner ? Et puis une autre Luciole qui pour moi est un peu la cerise sur le gâteau, ou la Luciole sur le gâteau. Janice Otiemi nous fournit en Luciole ou en accroche à chaque début de chapitre avec des proverbes, je dirais, emplis de sagesse africaine qui vont nous guider à travers le roman, et on se dit, bon, et en effet, je ne sais pas si ce sont des vrais proverbes, parce qu'il y en a beaucoup, ou si ils les inventent au fur et à mesure, mais c'est très porteur, et c'est exactement ce qui se passe dans chaque chapitre.
Excuse-moi, parenthèse, tu dis Janice, c'est un homme ou une femme ?
C'est un homme, pardon.
Ah ouais,
c'est un,
parce que j'ai cru que c'était
une femme.
Non, c'est
un
auteur.
Prénom, non, c'est un auteur masculin, en effet.
D'accord.
Donc le roman, comme j'ai dit, se déroule à Libreville en 2009, donc il se passe une période contemporaine, avec la vie de tous les jours, les luttes de pouvoir, la corruption, la justice, la censure des médias, la hiérarchie, le piston dans le monde du travail, le manque de perspective d'une grande partie de la jeunesse sont en fait des faits quotidiens. Et là-dessus, je pense que Janice Otiemi est très engagée pour dénoncer ça. Il parle également des réalités de la pression familiale avec les différentes ethnies, les tribus, les traditions versus la vie moderne au travers de la conception du mariage, avec quand même des dots exorbitantes demandées par les familles, qui sont en fait une source de revenus, et puis de l'adultère aussi. Et puis, il y a la réalité de la prostitution, clairement liée à l'immigration clandestine de jeunes femmes de pays frontaliers, qui cherchent également à survivre en dehors de leur village, où elles ont sans doute laissé des enfants à leur famille, pour la plupart d'entre elles. Le roman donc commence par un éventail de différentes scènes dans lesquelles les personnages sont mis en situation dans un environnement. Donc il y a toujours de la pression sociale et sociétale, hein, pour chacun d'entre eux. Mais c'est pas comme dans les films américains où à la fin tout le monde se rejoint. C'est des différents personnages qui vont évoluer. Donc on a un caïd au départ qui a toujours besoin d'argent pour posséder, inviter et être admiré. Donc ça c'est très important et qui est prêt à tout pour y arriver. On a un gendarme dont la femme est retournée dans sa famille qui exige donc en réparation une dot faramineuse et qui a laissé sa petite fille. On a un comptable très rangé qui mène une vie très monotone et qui apprend par un médecin qu'il a contracté le HIV ou VIH. Et qui va chercher à se venger, vous devinez la suite. Et un policier corrompu qui exige des pots de vin à chaque occasion dans son enquête. Donc les personnages sont répartis au fil de l'histoire, ils travaillent en parallèle puisque les histoires sont différentes. Au cours des chapitres, le tout bien sûr introduit par ces petits proverbes de sagesse africaine. Et leur situation évolue, ce qui nous montre leurs choix, leurs contraintes, leurs limites. Et pour arriver chacun à résoudre sa difficulté ou son enquête. Donc les assassinats de prostituées et le braquage, ce sont les deux enquêtes principales. Elles s'entremêlent pas, comme souvent, par ce que je disais tout à l'heure, par rapport à certains romans, ça s'entremêle pas. Juste à la fin, parce que en fait, y a un indice qui s'interpose et qui fait que les deux se croisent. Et il y a un peu plus de chance d'un côté que d'un autre, mais je vous raconterai pas l'histoire. Et Le Chasseur de Lucioles, en fait, c'est en fait un épisode parmi cinq romans de Jani Sotsiemi, qui reprend les policiers, donc Kumba et Oula, qui sont en fait deux sacrés loulous, j'allais dire, qui n'hésitent pas à fausser les informations, exercer des chantages, extorquer de l'argent au cours de leurs enquêtes. Donc eux vont revenir, tandis que les autres personnages vont varier d'un épisode à un autre. Donc, comme on peut s'y attendre, parmi tous les personnages, il semble que ce sont quand même les gendarmes qui, eux, sont liés à ce braquage, qui vont s'illustrer parce qu'ils sont intègres, ils essayent de respecter la population. Et puis, comme bien souvent, les héros ne gagnent pas toujours. Mais je ne vais pas spoiler le roman, c'est à vous de découvrir. Donc, je vous ai donné des pistes. Il y a un caïd, un gendarme, des gendarmes à peu près intègres, un comptable qui a le HIV qui veut se venger des femmes, bien sûr. Et puis, deux policiers corrompus. Et au milieu de tout ça, il y a des colonels, etc., qui jouent leur influence. Voilà. Je vais vous dire quelques mots sur l'auteur. Donc, Jani Sotsiemi a quand même cumulé un certain nombre de prix, dont le prix du roman gabonais ou encore le prix Dora Suarez. Et il nous plonge dans son univers sur la société gabonaise et aussi avec un parler local qui est très bien expliqué. Et puis des traditions et chaque situation est très bien décrite. Voilà. Je n'en dis pas plus.
Merci, Miss Lemon.
Merci. Donc, notre voyage en francophonie s'achève, hélas, ou enfin, suivant les avis qui sont partagés. Nous avons donc visité, au cours de nos deux émissions, la Suisse, la Belgique, le Québec, Haïti, le Maroc, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Bien d'autres pays restent à explorer, ce que nous ferons sans doute dans une future émission.
À 23 pas... du mystère.
Calade. Geek Patrick va commencer très fort l'année en assurant à lui seul la partie chronique de notre émission.
Sur mes larges épaules.
En s'attaquant à un gros morceau des classiques de la science-fiction, le cycle Fondation de Isaac Asimov.
La chronique de Geek Patrick.
Guy Patrick, de retour chez Isaac Asimov.
Exactement, un petit effort de mémoire, messieurs, dames. Lors de notre émission de septembre et octobre dernier, nous avons parlé du cycle des robots d'Asimov. Et bien maintenant, nous allons passer au cœur de ce qui a fait entrer Asimov dans la légende de la science-fiction, le fameux cycle de Fondation. Alors initialement, c'est une suite de trois romans qui sont parus dans les années 50, très anciens. Fondation, puis Fondation et Empire, puis Seconde Fondation. On sait aujourd'hui que cette vision d'un empire galactique a largement inspiré des auteurs comme Frank Herbert pour Dune, mais aussi George Lucas, tout avec ses Star Wars et tant d'autres. Mais quand Asimov a décidé de donner une cohérence d'ensemble à ses romans, quand je dis ses romans, c'est au cycle des robots, à un autre cycle que je n'ai pas évoqué, le cycle de l'Empire, et au cycle de Fondation, eh bien il a jugé nécessaire d'enrichir ce cycle de Fondation. Il a donc ajouté deux romans qui se situent avant les trois livres de base, et deux autres qui se situent après. Et tous ces romans, les quatre, ont été rédigés et publiés dans les années 80.
Ouh, ça me semble un peu compliqué tout ça.
Exactement, faut vous accrocher. Alors, je commence. Les deux préquels. Préquels, c'est les romans qui sont situés avant le cycle de Fondation. Ils s'appellent Prélude à Fondation pour le premier, puis L'Aube de Fondation pour le deuxième. On y suit un jeune Harry Seldon, qui est le héros de Fondation. C'est un scientifique qui a l'intuition d'une discipline qu'il va inventer, qui s'appelle la psychohistoire. C'est une discipline révolutionnaire, scientifique, qui est un mélange de mathématiques et de sciences humaines diverses, comme l'histoire, la sociologie, les sciences politiques, etc. Et la psychohistoire va être au centre du cycle de Fondation. On va suivre Harry Seldon tout jeune, dans Prélude à Fondation, soutenu par un mystérieux individu nommé Chester Humming. Et ce mystérieux individu confie Harry à la protection d'une jeune femme aux capacités physiques étonnantes, Dorce Venabili. Cette jeune femme est une historienne qui deviendra ensuite sa femme. Le couple, Harry et Dorce, va parcourir Trantor, la fameuse planète aux 40 milliards d'habitants, d'où l'empereur dirige un empire constitué de 25 millions de planètes.
Alors, quel est l'intérêt d'avoir rajouté ces deux tomes avant la trilogie ? Je capte pas tout.
Eh bien, outre que ça nous en dit un petit peu plus sur la création de la psychohistoire, mais pas tant que ça en fait, je pense que pour Asimov, la motivation principale, c'était de faire le lien avec le cycle des robots. Ainsi, on retrouve dans ce premier volume la même question qu'Asimov a déjà évoquée dans le cycle de l'Empire, le débat sur l'origine des êtres humains, avec ce mythe d'une planète d'origine qui s'appellerait Terra. Mais cette hypothèse n'est pas soutenue par grand monde. Une des sociétés où Harry Seldon va s'installer temporairement, sur Trantor, il y a plein de sociétés indépendantes. Cette société-là s'appelle Mycogène. Eh bien, cette société parle dans ses légendes des 50, sans qu'on sache vraiment 50 quoi. Sauf que nous, les lecteurs du cycle des robots, on le sait. Ce sont les 50 premières planètes qui ont été colonisées par les humains. Donc, la planète de l'aube, selon la légende de Mycogène, qui, nous le savons, n'est rien d'autre que la planète Aurora. Voilà, donc, vous voyez, le lien se fait un petit peu à travers ce genre de petits détails. Et enfin, il est aussi fait allusion, toujours à Mycogène, à une autre légende, celle d'un temps où des machines à forme humaine existaient, qu'on appelait des robots. Et à la légende d'un robot qui fut renégat et libérateur. Vous allez me dire, libérateur de quoi ? Libérateur de la planète Terra, du moins, ce sont les déductions de Harry Seldon et de sa compagne Dorce Venabili.
Ah ah, donc des robots se cachent derrière tout ça, si j'ai bien compris.
Exactement, mais je dis exactement, mais en fait c'est à vous de le découvrir en lisant les deux préquels. En tout cas, à la fin de l'aube de Fondation, on voit naître le double projet, celui d'une première fondation qui sera installée sur la planète Terminus, et celui secret de la seconde fondation, composée de scientifiques dotés de pouvoirs télépathiques, et dont le rôle est celui de backup de la fonction fondation principale. Et nous voilà arrivés au début du vrai cycle de Fondation, avec le tome 1 du même nom. Ce roman n'en est pas un au départ, parce qu'en fait, il est composé de 5 nouvelles qui ont été écrites dans les années 40, la dernière datant de 51, et rassemblées dans un roman.
Et enfin ?
Comme je vous l'ai dit, le cœur de ce cycle légendaire, c'est la psychohistoire. Grâce à cette science, Harry Seldon a en effet prédit que l'Empire allait s'effondrer dans les 300 ans à venir, et surtout que le chaos allait régner dans la galaxie durant 30 000 ans. Donc l'objectif de Seldon, avec l'aide de la psychohistoire, c'est de réduire à seulement 1000 ans la période de chaos. Je vous cacherai pas, monsieur Dame, que le tome 1 de la trilogie originelle est aujourd'hui assez lourd à lire parce qu'il est extrêmement daté. Alors on va passer directement au tome 2, Fondation et Empire. Et là aussi, c'est un collage de deux nouvelles. Ce n'est pas 5 nouvelles, c'est seulement 2 nouvelles séparées à coller l'une à l'autre. La première est centrée autour d'un personnage qui s'appelle Bel Rios, un chef de guerre brillant, qui est bien décidé à attaquer et à soumettre Fondation pour le compte de l'Empire. Parce qu'il faut dire que la première Fondation est devenue un centre politique florissant qui fait de l'ombre à l'Empire. Oui, mais l'empereur ne peut pas accepter que Bel Rios réussisse, parce que ça ferait de lui le probable nouvel empereur à l'occasion d'un coup d'État comme l'Empire en a connu tant dans le passé. Aussi, l'empereur trahit Bel Rios, ce qui empêche Bel Rios de réussir son coup, alors qu'il était sur le point de réussir son coup, de prendre le contrôle de Fondation. Et c'est ainsi que l'Empire va continuer à décliner inexorablement, comme l'a prévu la psychohistoire.
Ah oui, mais si alors, si Fondation est une menace pour l'Empire, pourquoi l'empereur ne les attaque-t-il pas lui-même?
La réponse est logique si on raisonne comme Isaac Asimov. Fondation est située à une extrémité de la galaxie, où se situe, attention à la galaxie, 25 millions de planètes, c'est pas une petite galaxie. Et donc si l'empereur désirait se charger lui-même d'attaquer Fondation, il doit quitter Trantor, aller à l'extrémité de la galaxie, et pendant ce temps, il sait très bien que le premier mercenaire venu ira sur Trantor, prendra le pouvoir et l'éjectera du pouvoir. Et donc l'Empire est condamné à une sorte de logique centripète, un peu comme l'a fait la Chine pendant des centaines d'années. C'est intéressant comme analogie, non? C'est pour ça que Bel Rios va échouer, ce qui va permettre au plan Seldon de poursuivre son cours.
Il reste donc la deuxième partie du tome 2, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait, tu suis bien. Et d'ailleurs, c'est la deuxième partie de ce tome 2, Fondation Empire, qui est la plus intéressante, selon moi. On y découvre comment un homme mystérieux qui se fait appeler le Mulet surgit de nulle part, réussit en quelques mois à prendre le contrôle d'une planète qui s'appelle Kalgan, ou Kalgan, je ne sais pas comment on dit, une planète riche et puissante, et à conquérir Fondation et toutes ses dépendances. Et ensuite, l'Empire va s'effondrer comme un château de cartes. La prestigieuse Trentor n'est plus que ruine. De 40 milliards d'habitants, la plupart sont morts, il ne reste plus que 200 millions d'habitants. Et donc, le mulet a pris le pouvoir en deux temps trois mouvements.
Et comment a-t-il réussi un tel exploit ?
Par un pouvoir télépathique jamais vu. Alors là, écoutez bien, je ne vais pas vous le révéler.
Oh non, je crois pas.
Eh ben oui, ce serait trop facile.
Mais nous avons lu dans tes pensées.
Mais c'est génial, hein. Franchement, c'est génial. L'enjeu majeur de cette deuxième partie va donc être, le mulet pourra-t-il trouver où est située la seconde fondation ? Celle, je le rappelle, composée de psychologues télépathes, comme on l'a appris dans l'aube de fondation. Donc, conseil, pour savoir tout ça, pour profiter de tout ça, lisez Fondation et Empire.
Donc il reste maintenant le tome 3.
Ben bravo, t'arrives à suivre, hein, c'est bien. C'est ça, en fait, le tome 3, donc, comme d'habitude, composé de deux nouvelles. Hein. C'est toujours écrit dans les années 50, je vous rappelle. Hein. La première nouvelle va régler le cas du mulet dans une confrontation absolument géniale entre le mulet et un des responsables les plus puissants de la deuxième fondation. Là aussi, je vous dis rien, mais c'est sensationnel. Et quand c'est terminé, on se dit, ah, purée, pourquoi c'est si court ? Faudrait que ça continue, quoi. En fait, on est déçu, comme je l'ai dit, donc cette histoire se termine trop vite, parce que, clairement... Pour moi, le mulet, c'est le meilleur de la trilogie originelle. Bon, pour autant, la dernière partie, la deuxième nouvelle de ce tome 3, va nous montrer les manipulations aussi géniales que machiavéliques de la deuxième fondation pour faire croire au monde entier qu'ils ont été démasqués et anéantis. C'est vraiment chiadé, hein, c'est subtil, c'est machiavélique, j'adore ça. Et donc, ainsi, le plan Seldon peut continuer à être pertinent puisque son gardien ultime, la deuxième fondation, est de nouveau dans l'ombre, ignoré du reste de la galaxie.
D'accord.
Et voilà!
Et donc,
c'est terminé pour aujourd'hui.
Mais on a
il nous restera
le mois prochain.
Alors,
le machiavélique Guy Patrick
voilà.
Nous parlera des deux tomes ajoutés dans les années 80.
Qu'on appellera les sequels.
Ah, les sequels. Fondation foudroyée et Terre et Fondation. Si c'est pas magnifique tout ça.
Je ne vous dis que ça.
Bon, bah alors, à la prochaine.
Tout à fait.
La chronique de Guy Patrick.
Chers auditeurs, chères auditrices, francophones de tous les pays, bien il est temps de nous quitter. Nous remercions Nicolas Stettenfeld de s'être joint à notre petite équipe du jour. Merci également aux fidèles Miss Lemon et Geek Patrick n'ont pas trouvé d'excuses valables pour être absents ce soir.
Mais nous, on adore ça.
Ne manquez pas de consulter notre podcast radio-calade.fr, rubrique émissions culturelles, où vous retrouverez les références des ouvrages dont il était question, ainsi que des informations complémentaires pour les plus curieux. Et où, bien sûr, vous pourrez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Nous vous donnons rendez-vous au mois de février, où nous irons en Angleterre faire non pas la tournée des pubs, mais celle des détectives privés, qui ont exercé leur talent entre Sherlock Holmes et Hercule Poirot. À bientôt.
Un beau programme.
À bientôt.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.